Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Chers auditeurs de Radio Kapi, bonsoir et bienvenue. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter ce soir. Je suis Gisèle Cage et c'est un plaisir de vous présenter les principaux titres de l'actualité. Restez avec nous pour découvrir les nouvelles les plus importantes de ce jour. Face aux menaces existentielles, Vital Kamerhe, lors de son discours d'ouverture de la session ordinaire de mars, a plaidé avec ferveur pour une loi rendant le service national et le service militaire obligatoire pour toute la jeunesse congolaise. Cette mesure vise à renforcer la capacité de l'armée à faire face à toute menace et à garantir la sécurité nationale. João Lourenço, président angolais et président en exercice de l'Union africaine, lance un appel aux partis en conflit dans l'est de la RDC, cesser toute hostilité à partir de minuit le 16 mars 2025. Cette initiative vise à instaurer un climat de désescalade essentiel pour les débuts des pourparlers de paix entre la RDC et le M23 prévu prochainement à Luanda. Un nouveau cas de vol a été perpétré dans la nuit de dimanche à lundi dernier à l'université de Kisangani, ajoutant à la série de vols déjà enregistrés dans cet établissement. Les enquêtes peinent à aboutir, laissant les étudiants et le personnel dans l'inquiétude. Pour en savoir plus sur ces incidents, nous avons le plaisir d'accueillir le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Jean-Faustin Bongilo, qui s'est confié à Radio Kapi. Restez avec nous pour découvrir ces révélations exclusives. Vital Kamerhe plaide pour une loi rendant le service national et le service militaire obligatoire pour toute la jeunesse congolaise afin de renforcer la capacité de l'armée à faire face à toute menace. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé cette proposition ce samedi lors de son discours d'ouverture de la session ordinaire de mars marquée par l'occupation d'une partie de la RDC par l'armée rwandaise, le M23 AFC, face aux innombrables menaces existentielles. La nécessité historique de la survie et de la conservation du peuple congolais l'emporte largement sur toute forme de clivage et de division, souligne le speaker de la Chambre basse qui invite les députés à lutter sincèrement pour l'unité nationale. Vital Kamerhe est au micro de Michel Kifinangoy.
J'en appelle ici aux dignes élus de s'engager avec sincérité dans la lutte contre toute forme de discrimination et stigmatisation pour rassembler les Congolais de toute origine et appartenance politique autour de l'impératif de préserver la paix et la sécurité autant que l'intégrité de notre territoire pour les générations actuelles et futures. C'est dans ce cadre que l'initiative législative porte ainsi la lutte contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie devra faire l'objet d'une attention soutenue. C'est au prix du dépassement de l'horizon des intérêts individuels que nous préserverons notre pays du spectre de la balkanisation qui plane sur lui depuis quelques décennies. Par ailleurs, il serait illusoire d'envisager la paix sans se doter de moyens militaires indispensables à sa pérennisation. Je rappelle donc l'impératif d'augmenter les capacités dissuasives de l'armée nationale. C'est pour cela que je vous invite à examiner la possibilité d'introduire le service national et le service militaire obligatoire pour mobiliser de façon coordonnée et méthodique les forces vives de la nation, particulièrement notre jeunesse, au bénéfice de la défense nationale.
Pour sa part, le président du Sénat a appelé à la réduction du train de vie des institutions comme un sacrifice nécessaire pour faire face à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Jean-Michel Samalukonde a invité tous les sénateurs et le peuple congolais à se rallier derrière le président de la République pour défendre l'intégrité du territoire national, même au prix du sacrifice suprême. Jean-Michel Samalukonde est au micro de Michel Kifindangoy.
Point n'est besoin de rappeler que l'heure est grave, et même très grave. Au moment où nous ouvrons cette session, certaines villes, certains territoires et localités de l'est de notre pays sont encore sous occupation de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de l'AFCM en violation du droit international. Et pendant ce temps, des faits constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité sont constamment commis. La République démocratique du Congo paye le prix fort du fait de son hospitalité et des richesses naturelles dont Dieu l'a doté. Aux ennemis de notre pays, nous disons que nous ne plierons ni ne céderons jamais. La réduction du train de vie des institutions doit être considérée comme l'une des mesures phares de l'effort que nous apportons à la guerre. Soyons déterminés et alignons-nous derrière le commandant suprême de nos forces armées. À nos forces de défense et de sécurité, je tiens à les assurer, peuvent compter sur l'accompagnement du peuple congolais que nous représentons.
Dans le cadre des efforts continus de la médiation angolaise pour trouver une solution urgente à l'instabilité qui règne dans l'est de la RDC, João Lourenço, président angolais et président en exercice de l'Union africaine, appelle les parties en conflit à cesser toute hostilité dans cette zone de la RDC à partir de minuit le 16 mars 2025. Cette annonce a été publiée ce samedi par l'agence angolaise de presse. Plus de détails avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Le cessez-le-feu doit inclure toutes les éventuelles actions hostiles aux populations civiles, bien aussi la conquête de nouvelles positions dans les zones en conflit, pour faire en sorte que ces initiatives et bien d'autres puissent aboutir à la création d'un climat de désescalade. Ça va permettre le début des conversations de paix très prochainement à Luanda entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23. À ce sujet, le président angolais a reçu hier vendredi un envoyé spécial du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Mambusi Tasumbu a la responsabilité au niveau du bureau du président Tshisekedi de suivre le processus de Luanda, la voie de la recherche de la paix pour la RDC, conduite par le président angolais João Lourenço.
Poursuivons ce journal. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a participé le 15 mars à Nairobi, au Kenya, à la réunion consultative du ministre des Affaires étrangères et de la Défense de l'EAC sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, selon une publication sur son compte X. Le ministère congolais des Affaires étrangères indique que la ministre d'État a plaidé pour une réponse régionale coordonnée et efficace pour l'application des décisions du sommet EAC-SADC du 8 février ainsi que pour le caractère contraignant de la résolution 2773 de l'ONU et l'impératif de sa mise en œuvre immédiate. Thérèse Wagner a également appelé à l'adoption d'une feuille de route claire assortie de délais fixes visant à instaurer un cessez-le-feu inconditionnel, à procéder au retrait de l'armée rwandaise et du M23, à rouvrir les aéroports de Goma au nord Kivu et de Kavumu au sud Kivu et à rouvrir un corridor humanitaire. Dans la partie nord de la province du Nord Kivu, la société civile de Beni Butembo et Lubero appelle le gouvernement à se fixer de limites à ne pas dépasser en cas de négociations avec la rébellion du M23. Ces forces vives ont exprimé cette position samedi dans une déclaration à l'issue d'une réunion d'analyse sur les efforts diplomatiques privilégiant le dialogue pour résoudre la crise dans l'est de la RDC, tout en estimant que l'option militaire serait la meilleure. Elle recommande que ce dialogue, s'il a lieu, se tienne dans le respect de l'ordre constitutionnel et de la souveraineté de la RDC et qu'il ne consacre pas l'impunité. Ces recommandations ont été lues par Richard Kirimba, vice-président de la société civile du territoire de Beni. C'est un extrait choisi par Martial Papi Mukeba.
Pour la société civile du Grand Nord Kivu, l'option militaire serait la meilleure. Mais si le gouvernement accepte de négocier, il serait important de se fixer des limites à ne pas dépasser. Ne pas ouvrir la brèche à la déstabilisation de l'ordre constitutionnel, s'abstenir de signer les engagements exposant davantage à la violation de l'intégrité et la souveraineté nationale, que le processus de dialogue ou négociation ne soit pas un prétexte de consacrer de l'impunité en blanchissant les crimes commis en RDC. Que le dialogue ou la négociation ne donne pas une fenêtre à l'introduction de nouveaux éléments étrangers dans l'armée congolaise. Les forces vives redoutent de l'implantation de certaines populations non congolaises sur le territoire national à l'issue de ces négociations ou dialogues.
Toujours au Nord Kivu, l'Organisation internationale Médecins sans frontières MSF annonce qu'elle cessera dès la fin du mois de prendre en charge gratuitement les blessés par armes victimes des affrontements à Goma. Cette assistance était dispensée à l'hôpital général de référence de Virunga. Depuis janvier, les équipes de MSF soutenaient cet hôpital débordé par l'afflux des déplacés pendant la guerre. Le point avec Rosalie Zawadi.
Au total, 726 blessés, parmi lesquels 618 étaient des blessés par balle, ont été pris en charge pendant cette période d'intervention. L'équipe des MSF a effectué 333 interventions chirurgicales en faveur de ces blessés. Un programme mené pour répondre à la crise qu'a connue la ville de Goma fin janvier, explique le docteur Marie Machako, coordonnatrice médicale des MSF en RDC.
Depuis la fin du mois de janvier, les équipes de Médecins sans frontières ont soutenu l'hôpital général des références de Virunga dans la prise en charge gratuite des blessés par armes, victimes des affrontements dans la ville de Goma. Cette intervention d'urgence menée en collaboration avec le ministère de la Santé sur une période de 2 mois arrive bientôt à sa fin. Le nombre des blessés ayant fortement diminué, les équipes chirurgicales de l'hôpital de Virunga ont la capacité de prendre les relais de manière durable.
D'ici à la fin de cette intervention, le 31 mars, les équipes des MSF ne vont s'occuper que du suivi des blessés encore internés à l'hôpital général de référence de Virunga.
Au Maniema, le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité en séjour dans les territoires de Kabambare au sud du Maniema sensibilise les jeunes à intégrer l'armée congolaise et la garde républicaine pour participer à la défense nationale. Pour ce faire, un meeting a été tenu hier vendredi à Ouadmaza. Un appel pressant est lancé aux jeunes pour qu'ils s'engagent dans le rang de l'armée congolaise. Florence Kizalunga pour plus de précision.
Lors de ces meetings, le ministre a exhorté la population à s'engager dans l'armée. Lawa Moselemani fait savoir que cette initiative du chef de l'État marque un tournant significatif dans l'engagement des jeunes de la région envers la défense nationale et témoigne de la volonté des autorités de renforcer la sécurité et la stabilité dans la province du Maniema.
Le message que nous avons, c'est celui de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui invite les jeunes ayant atteint 18 ans à 25 ou 28 ans d'adhérer au sein de FRDC et plus particulièrement dans l'unité qu'on appelle garde républicaine parce que notre pays ne doit qu'être protégé par ses nationaux. La deuxième des choses, c'était pour concilier les tendances parce que vous savez, les chefs de l'État avaient signé une ordonnance portant fonctionnement de la RAD. Chez nous ici, au niveau de Salamabila, il y a la réserve armée de la défense qu'on appelle les Oazalen. Ils ont accepté d'accompagner, d'appuyer les FRDC.
Présent lors de ces meetings, Kabala Selemani, le chef de Wazalendo dans le territoire de Kabambare, a exprimé sa satisfaction face à cette initiative. Il promet de mobiliser les siens pour qu'ils intègrent le FARDC. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Kwilu, les déplacés de Kwamout vivant actuellement dans la ville de Bandundu sont contraints de déféquer à l'air libre en raison des installations sanitaires bouchées sur leur site de Malebo. Ces personnes qui ont fui les atrocités de la milice Mobondo doivent également se laver dehors faute des douches. Le chef du quartier Kimvuka, où se trouvent ces sites d'hébergement, déplore cette situation et craint la propagation des maladies d'origine fécale. C'est long Missimi, Ngamayama, son quartier ainsi que toute la ville sont exposés à ce risque. Il appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement pour résoudre cette situation. Voici le reportage de Irène Mboma Luzolo qui a visité le site vendredi dernier.
L'accès aux installations sanitaires est un véritable calvaire pour les déplacés internes de Kwamout, logés dans les entrepôts du marché central de Malebo à Bandundu. Sur les sites, les toilettes disponibles sont bouchées il y a de cela plusieurs mois. Du coup, ces personnes en détresse défèquent maintenant à l'air libre. Une pratique jugée extrêmement nocive pour la santé publique, déclare le chef du quartier Kimvuka, Misiminga Mayama.
Les quartiers sont exposés à certaines maladies. Choléra. Quand vous passez dans des terrassés de conduite d'eau du marché qui mène vers les étangs, les matières fécales, allez jeter peut-être les matières fécales derrière les bâtiments, parce qu'ils n'ont pas de choix. Ce n'est pas bon pour les cas, c'est l'insécurité, il n'y a pas d'hygiène.
Préoccupés, les chefs Missimi en appellent à l'intervention urgente des autorités compétentes et des partenaires humanitaires.
Nous demandons aux autorités de les assister, de nous approvisionner aussi en matériel tel que houe, bottes, gants, chlore pour les fils entretenir les WC qui sont bouchés.
D'après le chef du quartier Kimvuka, il se pose aussi un problème de douche dans ces sites de déplacés. Hommes et femmes n'attendent que la tombée de la nuit pour prendre leur bain à l'extérieur. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, plus de 100 vendeurs des planches du grand marché Bakwa Dianga à Mbujimayi sont empêchés de mener leurs activités commerciales depuis près de 2 semaines. L'autorité urbaine a déployé des agents, des polices sur les lieux où sont érigés les étalages des planches afin de faire respecter la mesure des délocalisations des vendeurs vers le marché Ouitrafa dans la commune de La Mouya. Pour manifester leur mécontentement, les vendeurs des planches ont saisi par écrit les autorités nationales et provinciales sollicitant leurs interventions pour plaider leur cause. Esther Ndalafina pour des précisions.
Plus d'une centaine de vendeurs de planches étaient ce vendredi à l'hôtel de ville pour rencontrer le maire de Mbujimayi. Certains vendeurs de planches ont demandé au maire de sursoir la suspension de leurs activités de vente de planches au grand marché Bakwa Dianga. Chef, nous sommes restés en train de vendre les planches dans les parcelles résidentielles à Bakwa Dianga. Nous avons trouvé des policiers mercredi à l'endroit où nous menons les activités. Jusqu'alors, ils nous ont payé, permettez que nous puissions rester là-bas. D'autres, par contre, ont demandé au maire de leur procurer des espaces au nouvel endroit indiqué au marché Ouitrafa pour leur délocalisation.
Chef, nos marchandises sont bloquées. Nous avons chômé pendant une semaine. À Simis, il n'y a pas d'espace.
Réaction de Jean-Marie Lutumba, maire de la ville de Mbujimayi.
Mon bureau est ouvert. Tous ceux qui n'ont pas trouvé d'espace à Simis peuvent venir me rencontrer. Tous ceux qui ont signé les mémos doivent venir avec leurs pièces d'identité. Amenez-moi les documents de vos étalages. Je ne demande pas le préavis de paiement de taxes.
Signalons que la vente des planches au grand marché Bakwa Dianga est suspendue depuis plus d'un mois par le maire de la ville sur instruction du Conseil des ministres provinciaux. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'ambassadeur sud-africain aux États-Unis déclaré persona non grata, c'est ce qu'annonce le secrétaire d'État Mario Rubio vendredi soir 14 mars via son compte X, accusant l'ambassadeur de haïr le président américain Donald Trump. En effet, le secrétaire d'État Mario Rubio a précisé que l'ambassadeur Ibrahim Rasoul nourrit les tensions raciales et que l'administration Trump n'a plus rien à lui dire. La présidence sud-africaine a réagi de façon très brève, tout comme le ministère des Affaires étrangères, en prenant acte de cette décision qualifiée de regrettable. L'Afrique du Sud dit rester déterminée à construire une relation mutuelle bénéfique avec les États-Unis d'Amérique, a déclaré Vincent Mangwenya, porte-parole du président.
L'invité.
Un nouveau cas de vol a été perpétré dans la nuit de dimanche à lundi dernier à l'université de Kisangani. Le représentant du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier dénonce ces actes devenus récurrents dans cet établissement. Curieusement, les enquêtes menées n'ont donné aucun résultat. Face à ces cambriolages répétés, les autorités de Inikis ne se sont jamais prononcées. Pour en savoir plus, Radio Kapi a approché le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Jean-Faustin Bongilo Boendi, s'entretient avec Jacques Moukonkolé depuis la ville de Kisangani.
Monsieur le recteur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Il y a eu beaucoup de cas de vol au niveau de l'université de Kisangani. Je pense que c'est 3 cas de vol dont on parle. Mais jusque-là, il n'y a pas eu la réaction de votre part. Comment pouvez-vous expliquer cela?
Je ne sais pas ce qu'on appelle réagir. Si réagir, c'est écrire dans les réseaux sociaux ou faire des déclarations, pour moi, ce n'est pas ça.
C'est quoi alors, selon vous?
Réagir, c'est de prendre des dispositions. Et depuis que nous avons connu le premier cas, des dispositions ont été prises pour sécuriser la caisse. Mais hélas, malgré les moyens qui ont été mis à la disposition des services attitrés, cela a duré près de 2-3 mois que les dispositions n'ont pas été appliquées telles que nous l'avions voulu.
Quelles sont ces dispositions, monsieur le recteur?
Les premières, c'était, j'ai signé un document de tout bancariser jusqu'à nouvel ordre. Tout argent doit rester à la banque. S'il y a un peu d'argent à la caisse pour des dépenses, dès que la journée est finie, on consigne la différence à la banque pour éviter cela. Deuxième disposition, j'ai pris une mesure d'administration de suspendre celui qui a été chargé de sécuriser la caisse et qui a négligé son travail. Et le dossier disciplinaire est pratiquement en cours. Et je me suis décidé que je ne rentrerai pas à la maison tant qu'on n'a pas fixé les dispositifs de sécurité pour sécuriser la caisse et pour sécuriser l'ensemble du bâtiment administratif.
Monsieur le recteur, il y a quand même le service de gardiennage ici et même des éléments de la police. Comment on peut expliquer tous ces actes de cambriolage?
Les éléments de la police, le contrat a pris fin normalement le 31 décembre. Mais nous avions prolongé, pour des raisons sécuritaires, nous avions prolongé le contrat avec la police nationale jusqu'au 28 février. Et depuis le 28 février, ce contrat est arrivé à terme. Mais nous avons nos agents de sécurité et je ne vais pas interférer. Ce qu'il y a, c'est que les agents qui étaient de service au moment où le cambriolage a eu lieu porte des responsabilités graves dans cette affaire.
Et l'argent, normalement, doit être placé à la banque. Ce qui a été fait, selon vos instructions, c'est qu'il n'y a pas eu vol d'argent ici.
Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu vol d'argent et je n'ai pas encore reçu non plus les rapports complets. Mais ce qui a été volé, c'est de l'argent, mais ce n'est pas cet argent qui pourrait pousser les gens, par exemple, à décréter un arrêt de service et tout cela, parce que d'ailleurs, hier, plus d'une semaine après, l'ordre que j'ai donné les quatre de pouvoir créditer les comptes, c'est seulement hier encore. À mon retour de Kinshasa, je trouve que les documents n'étaient pas encore en exécution au niveau de la banque, mais au moment où je vous parle, les comptes des agents vont être crédités parce que j'ai déposé ça hier.
Peut-on avoir une idée du montant emporté?
Je ne le dis pas au micro ici parce que d'autres services sont aussi dans cette enquête-là. Je ne donne pas le montant au micro.
Des enquêtes diligentées, aucun résultat n'a été publié, n'est connu.
Oui, je crois que ce n'est pas la première enquête dans notre monde ici, dans ce pays, dans cette province, dans cette ville. Il y a eu pire que ça et personne n'a jamais connu. Au moment où je vous parle, si j'hésite d'aller encore à la police, parce que vous allez à la police, les enquêteurs vont venir et ils ne vous donnent même pas les résultats des enquêtes. Ça décourage, mais nous tournons cette fois-ci du côté de l'administration et il y a des sanctions positives et des sanctions négatives qui sont prévues par les textes administratifs. Et nous allons recourir plus de ce côté-là.
Pour terminer, monsieur le recteur, quel message pouvez-vous lancer à la communauté universitaire?
Le message, c'est que je ne suis pas de ceux qui sont en train de pratiquer l'acharnement. Un acharnement contre la personne directeur que je suis. Un acharnement qui se montre par plusieurs moyens. Et je ne peux pas tout dire ici, mais c'est un problème d'acharnement. Pour que Bungilo parte, que quelqu'un d'autre vienne, mais je finirai par partir un jour.
Monsieur le recteur, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Jean Faustin Bungilo Boindi, sont entretenus avec Jacques Moukonkolé. Et voilà, chers auditeurs, notre journal touche à sa fin sur Radio Kapi. Un grand merci à Jean-Claude Nsiala pour la mise en onde, à Jude Bilanda pour la coordination et à Alain Irong Mouchins pour la supervision. Je suis Gisèle Cage et c'était un plaisir de vous accompagner ce soir pour rester connecté avec nous et ne rien manquer de nos programmes. Rejoignez-nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Votre fidélité nous touche profondément et nous vous en remercions de tout cœur. À très bientôt sur Radio Kapi.